Monsieur le Président, je voudrais remercier l'ensemble des États qui ont pris la parole ce matin, à la fois pour des félicitations, pour des encouragements, mais surtout pour la reconnaissance de la pertinence des recommandations qui ont été faites. Il y a eu 88 États qui ont vraiment intervenu et bien sûr des organisations bilatérales et multilatérales et la société civile, je voudrais, et bien sûr des organisations confessionnelles. Je voudrais très sincèrement vous remercier encore pendant ces 6 années que nous avons passées ensemble. Je voudrais reconnaître l'appui des États. Chaque fois que, bien sûr, le mandat a eu besoin d'eux, à la fois au niveau des visites pays, donc c'est le lieu de remercier l'ensemble des pays que nous avons visités et l'accueil qui nous a été réservé, mais surtout la pertinence du dialogue qu'il y a eu avec ces différents pays et la prise en compte des recommandations que nous avons pu faire à ces pays. Je voudrais aussi très sincèrement faire une mention spéciale à la société civile avec laquelle nous avons collaboré, travaillé ensemble et de façon pertinente. Je voudrais vraiment encore reconnaître ce travail extraordinaire que la société civile fait sur le terrain, à la fois en termes d'innovation, en termes d'interpellation, en termes aussi de suivi et aussi en termes d'aider à la transparence hein, des systèmes éducatifs pour permettre, bien sûr, l'effectivité du droit à l'éducation. Et j'aimerais vraiment encore appeler les États à coopérer et à collaborer avec la société civile dans cette perspective-là. En ce qui concerne maintenant les commentaires et les questions, je pense que j'ai tenté de les organiser en 4 points essentiels. Le premier élément important, c'est que l'ensemble des États et vraiment avec l'appui des organisations à la fois bi- et multilatérales, mais aussi la société civile, pratiquement tout le monde reconnaît et est unanime de l'utilité, bien sûr, du numérique et de l'introduction du numérique pour s'assurer de l'effectivité du droit à l'éducation. Ceci étant dit, avec la crise du COVID, les États se sont plus ou moins organisés sans planification importante. Et je pense que pour moi, un des points importants, c'est justement de dire, si nous voulons nous assurer que nous utilisons au mieux la digitalisation de l'éducation, il faut justement avoir des réflexions profondes au niveau à la fois mondial, avec bien sûr l'appui des Nations Unies et de l'UNESCO, et de l'UNESCO bien sûr, et d'autres acteurs comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, bien sûr, comme les mécanismes de l'Amérique latine et de l'Asie. Et c'est important, bien sûr, que ces mécanismes, à la fois au niveau international, mais aussi au niveau régional, puissent s'impliquer dans les débats et s'assurer que, justement, nous puissions construire la perspective ensemble, en s'écoutant, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir construire. Donc ça, c'est ma première recommandation forte, c'est de s'assurer qu'il y ait des espaces de dialogue, tant au niveau international, mais aussi au niveau régional, et ensuite au niveau national et au niveau local, sur cette dimension de numérisation de l'éducation. C'est vraiment fondamental, il va falloir que la réflexion, mais surtout que l'espace de dialogue s'organise entre les différents acteurs et aux différents niveaux. Et en ce moment-là, sur le plan, bien sûr, de la législation, on sait qu'on peut éviter les inégalités, on peut éviter la discrimination, on peut s'assurer que les groupes marginalisés, comme les personnes vivant en situation de handicap, les gens en milieu urbain, mais laissés pour compte, les gens qui vivent en milieu rural, les migrants, les réfugiés, les populations nomades, mais particulièrement la prise en compte des filles et des femmes avec des mesures spécifiques tenant compte bien sûr de leurs conditions, de leur statut, de leur contexte et dans chaque pays, je pense que c'est ça qui va aider à avancer. Donc, c'est vraiment d'avoir cette planification et vision à long terme en s'assurant, pour moi, que l'éducation s'insère dans une vision d'une société que nous voulons, c'est-à-dire une société résiliente, une société pacifiste, une société où il y a des valeurs humaines qu'on essaye de promouvoir en termes de vivre ensemble, de vivre ensemble, mais surtout du respect aussi de l'autre, une société de paix, une société de solidarité, et c'est ça d'abord l'éducation. L'éducation doit s'insérer dans cette vision sociétale pour s'assurer que nous puissions construire, bien sûr, des civilisations fortes, résilientes pour notre humanité, et l'éducation reste tout simplement cet instrument maintenant de transformation pour pouvoir atteindre cet objectif. Je voudrais aussi parler de la santé mentale, qui est effectivement un domaine important dans ce processus à la fois justement d'après COVID. Et il y a des outils qui existent, par exemple l'ISESCO, l'UNESCO, d'autres organisations ont développé, l'UNICEF, des instruments pour la réouverture bien sûr des écoles. Et ça, je pense que ce sont des instruments déjà qui existent et qui peuvent être consultés en ligne. Et c'est vraiment important parce que je vais demander bien sûr à l'équipe de s'assurer que bien sûr ces guides-là soient bien sûr mis en ligne pour que ceux qui veulent les consulter puissent les consulter. C'est fondamentalement important les questions de santé mentale. C'est fondamentalement important les questions, bien sûr, de psychologie. Et chaque école, j'ai dit aujourd'hui, doit pouvoir justement se doter d'un mécanisme d'articulation entre la santé et l'éducation. S'il n'y a pas ça, on va rater le coche. Et c'est fondamentalement important parce que les prochaines décennies, c'est aussi cette dimension-là, bien sûr, de bien-être, que j'appellerais de bien-être, où on aura à la fois toutes ces questions de sport, toutes ces questions, bien sûr, psychologiques, toutes ces questions, bien sûr, de santé mentale, et toutes ces questions de bien-être, parce que le bien-être, c'est aussi bien manger et décemment manger